Prisme, l'émission d'architecture qui fait société sur Bâti Radio.
Depuis presque 3 ans, une pénurie mondiale de matériaux et une hausse sans précédent du coût des énergies fait vaciller le monde du bâtiment et de l'industrie. Est-ce une crise conjoncturelle ? Est-ce l'avertissement que les ressources de ce monde ont une fin ? Au sortir de la COP26, Greta Thunberg a ironiquement résumé le sommet en 3 mots. Bla, bla, bla. En France, le secteur du bâtiment représente 44% de la consommation d'énergie, 25% des émissions de CO2 et plus de 70% des déchets. Comment imaginer de nouvelles idées d'architecture, bas carbone, recyclables et durables ? Pour faire le point sur la question, nous avons invité Laurent Morel, président de l'Institut français pour la performance du bâtiment, l'IFPEB, et Guillaume Meunier, architecte et ingénieur, directeur du pôle environnement chez Elliott. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Au sommaire de cette émission, nous commencerons par faire le point sur l'actualité avec Lila Apollonia Fournier, journaliste chez Bactitu. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous éclairer sur ce qu'il est de cette fameuse pénurie des matériaux. On aura le temps de vous écouter tout à l'heure. Nous irons ensuite faire une visite éclair avec l'architecte Philippe Prisotti, commissaire scientifique de l'exposition L'empreinte d'un habitat, construire léger et décarboné, actuellement au pavillon de l'Arsenal à Paris. Puis l'autre prisme, la chronique de David Trottin, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous parler d'un naufrage.
Exact.
Et enfin, rendez-vous avec Dominique Boré, président d'honneur de la Maison de l'Architecture d'Île-de-France, avec les grands événements du mois à ne pas manquer. Bonjour Dominique.
Bonjour Olivier.
Alors Laurent Morel, bonjour. Vous avez été directeur de la société foncière Clépierre, leader européen des centres commerciaux. Vous mettez aujourd'hui votre expérience au service des risques liés au changement climatique. Vous êtes président de l'Institut français pour la performance du bâtiment, l'IFPEB, une alliance d'acteurs économiques qui mettent en œuvre les moyens de transition énergétique réalistes et ambitieuses. Bonjour.
Bonjour.
Alors Guillaume Meunier, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes architecte et ingénieur. Après une expérience en agence d'architecture, vous avez rejoint Elliott en 2014 pour porter et développer les missions de modélisation et d'écologie urbaine.
C'est ça.
Voilà, depuis 2017, vous êtes responsable du pôle environnement chez Elliott. Vous avez travaillé sur les quartiers de Pardieu à Lyon, Lille-Fives ou encore Paris Change d'air, donc la stratégie neutralité carbone pour la ville de Paris.
C'est ça, c'est une grande orientation carbone ces dernières années.
Très bien. Ben écoutez, avant de vous écouter parler de ces sujets très importants qui nous occupent aujourd'hui, nous allons faire le point avec la journaliste de Bâti Actu, Lila Apollonia Fournier, pour cette information sur la pénurie de matériaux et l'épuisement des énergies.
Les pénuries de matériaux que connaît le secteur de la construction ne sont pas près de prendre fin. Depuis plusieurs mois, le bâtiment est secoué par une crise sans précédent qui entraîne des problèmes d'approvisionnement et des hausses de prix. Un phénomène mondial qui s'explique par le fait que la demande est plus forte que l'offre et que la relance économique de la Chine et des États-Unis entraîne une captation importante de la production des matériaux de leur part. En outre, les retards des transports maritimes et la lente réouverture des sites d'exploitation et de production en temps de crise sanitaire ont accentué les tensions. Dans le BTP français, les conséquences n'ont pas tardé à se faire sentir. Une entreprise artisanale sur 2 connaît des difficultés d'approvisionnement, selon la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, qui espère un retour à la normale au premier semestre 2022. Bois, acier, cuivre, la flambée des matériaux est vertigineuse, de l'ordre de 30 à 80%. Les prix ne semblent aujourd'hui plus enregistrer d'augmentation, mais ne diminuent pas non plus, confirme le médiateur des entreprises. Seule une faible décrue est à noter pour le bois, matériau qui avait déjà connu des tensions en Europe, lorsque l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, avait imposé une taxe sur le bois canadien, forçant ainsi les Américains à se fournir sur le vieux continent. En attendant, les professionnels tentent de s'adapter comme ils peuvent et subissent parfois des pénalités de retard si le chantier n'est pas terminé à temps. Cette crise n'a pourtant pas que des effets négatifs. Certains acteurs se tournent vers les matériaux géosourcés ou de récupération. Une façon de faire indirectement baisser l'empreinte carbone des constructions et développer l'architecture bas carbone. D'autres professionnels prônent les matériaux d'origine végétale ou animale, dits biosourcés, pour répondre à la fragilité des chaînes logistiques mondiales. La Banque mondiale entrevoit toutefois une éclaircie pour l'année 2022. Les hausses des cours des matières premières devraient ainsi ralentir, voire diminuer. Il faut rappeler que le bâtiment n'est pas le seul secteur à être touché. Automobiles, produits électroniques, ameublements, tous voient les ruptures de stock s'accumuler. Même les jouets pour enfants pourraient être concernés cette année. Cette grave crise est décuplée par l'explosion des prix des énergies dans un contexte de demande mondiale qui ne cesse de croître. L'association UFC Que Choisir a prévenu une hausse de 10% est attendue sur les prix de l'électricité en 2022. Le gaz a quant à lui bondi de 44% depuis janvier 2020, selon la Commission de régulation de l'énergie. Pour la Banque mondiale, les prix de l'énergie devraient rester élevés en 2022 avant de voir les cours du charbon et du gaz naturel chuter l'année d'après. Des prédictions que l'institution ne peut évidemment pas garantir. Des conditions météorologiques défavorables, une menace de nouvelles vagues épidémiques ou des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement pourraient bouleverser ces prévisions. Et certaines ressources naturelles et biosourcées restent épuisables. L'industrie du bois est par exemple soumise à une logique de gestion durable de la ressource. Quant au pétrole, il devrait connaître une décroissance entre 2030 et 2050, comme le rappelle un rapport du Shift Project, publié cette année et financé en partie par le ministère des Armées français. Face à ces nombreux défis qui touchent autant les matériaux que l'emploi des énergies dans les bâtiments, une question se pose pour la maîtrise d'œuvre. Comment changer notre manière de faire de l'architecture et de concevoir les ouvrages ?
Merci Lila Polonia Fournier, Bâti Actu. Laurent Morel, du coup, ma première question s'adresse à vous. Pensez-vous qu'il s'agit là d'une crise passagère ? Ou est-ce que nous sommes en train de s'installer dans une crise parce qu'on a entendu que, a priori, tout devrait revenir comme avant vers 2022.
Plus ou moins.
Oui, alors écoutez, merci de cette question. Et je vais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant sur le rapport du Shift sur le pétrole. Je suis un des administrateurs du Shift Project. Et effectivement, ce que cette crise nous dit, pour l'instant, cette crise sur les prix, hein, pour l'instant, donc, on a une inflation ponctuelle sur les matériaux et sur l'énergie. En tout cas, sur les matériaux, elle est due assez largement, à mon avis, aux ruptures d'approvisionnement que la crise sanitaire a créées, hein, beaucoup plus qu'à une raréfaction de la ressource ponctuelle. Au fond, ce que nous disent ces crises ponctuelles sur les prix, parce que là, on va avoir une hausse des prix, et puis effectivement, mécaniquement, cette hausse des prix va provoquer un retrait de la demande, hein, c'est-à-dire que l'économie va s'ajuster et donc les gens vont reporter des projets. Il en est de même avec les matériaux qu'avec les énergies. Hein. C'est-à-dire que quand les prix augmentent, ça provoque des réflexes d'économie ponctuelle et donc une baisse des prix.
Hein. Une pause des projets.
Et donc les prix redescendent, du coup la demande redémarre, etc. Et voilà, donc on va rentrer dans une phase d'oscillation des prix à la hausse ou à la baisse. Au fond, ce que nous disent ces oscillations, c'est que le sous-jacent lui-même est en raréfaction. Hein, hein, et donc, c'est typique d'une ressource qui est en voie d'attrition. Hein, c'est le fait que vous allez avoir ces augmentations brutales du prix, puis baisse. Exactement ce qui se passe sur le pétrole. Hein, faut savoir que le pétrole, la production de pétrole, 90 millions de barils par jour, elle est stable depuis 10 ans. Elle n'augmente plus depuis 10 ans. Or, on nous dit que l'économie croît. Hein, on nous dit que l'économie croît, mais d'un autre côté, la quantité de pétrole disponible pour faire marcher l'économie, elle ne croît plus et elle va bientôt, effectivement, baisser. Donc, au fond, y a deux niveaux de lecture de cet incident sur les prix. Il y a un premier niveau qui est celui des conséquences, des répliques, si vous voulez, de la crise sanitaire et des ruptures des chaînes d'approvisionnement qui provoquent ponctuellement une hausse des prix. Et ce que ça nous dit de façon beaucoup plus fondamentale, c'est que il n'y a pas d'élasticité derrière ça et que la raison pour laquelle il y a ces sautes sur les prix à la hausse comme à la baisse, c'est que sur la ressource elle-même, il y a une vraie attrition, une vraie raréfaction. Voilà. Et donc, si on veut raisonner à partir de cette crise, il faut réfléchir plutôt sur le moyen terme et réfléchir à la façon dont effectivement il faut qu'on réoriente notre économie, il faut qu'on se déshabitue de cette addiction qu'on a aux énergies fossiles et cette habitude qu'on a prise depuis 150 ans de considérer que la ressource naturelle était infiniment disponible. Ça n'est pas le cas. Hein, et c'est d'autant moins le cas que la population mondiale croît. Donc ça doit nous inciter, cette crise, et en ça c'est peut-être bénéfique, à réfléchir à la façon dont on s'approvisionne pour continuer de fonctionner et de ne renoncer à rien d'essentiel. Le bâtiment, c'est essentiel. Et voilà, donc, ces idées, effectivement, d'aller chercher des matériaux différents, géo ou biosourcés, c'est une des façons d'appréhender cette raréfaction de la ressource. Une autre, c'est le recyclage et le réemploi, enfin, et les nouvelles pratiques. Tout ça doit conduire à une nouvelle façon de construire.
Guillaume Meunier, selon vous, c'est une crise passagère ou bien est-ce qu'on est en train de s'installer vers une nouvelle économie autour de la raréfaction des matériaux, des énergies non disponibles ?
Non, je pense que ça a été assez bien résumé. Il y a vraiment les deux tendances, la tendance de fond, raréfaction des matériaux, et en même temps, il y a ce changement un peu, ce changement où on essaye de construire plutôt bas carbone avec des matériaux biosourcés. Et par contre, là, on est plutôt, pour l'instant, on est presque malheureusement en mise en branle de filière, ce qui fait qu'on a un léger retard. Si on prend l'exemple du bois, on est en retard sur les premières et deuxièmes transformations du bois avant qu'on ait des matériaux qui soient prêts à poser sur un bâtiment. Et c'est plutôt ce retard-là qui est en train d'être rattrapé. Avec, il y a eu aussi des grandes annonces, hein, les JO qui ont annoncé il y a déjà quelques années, on voulait tout construire en matériaux biosourcés. Et donc c'est un peu les deux tendances, hein, ces deux courbes qui se croisent, mais qui effectivement, la conclusion, c'est qu'il y a vraiment un changement dans l'approche et dans la manière dont on doit construire. Donc c'est plus... Malheureusement, c'est presque plutôt intéressant. Et c'est presque... Il y a aussi le rapport du GIEC qui est assez intéressant, qui est sorti, qui dit « on a beaucoup de problèmes, mais tout est possible ». Et c'est un peu ça au moment où on en est dans un moment charnière. On a vu que la COP26 a montré les limites de ce que pouvait faire le monde politique. Donc on doit tous à nos niveaux, dans la manière dont on travaille, de changer notre manière. Et on a tous les signaux, hein. On parle plus de signaux faibles. Il y a 10 ans, c'était les signaux faibles. Maintenant, les signaux, ils sont très clairs, hein. Si personne n'a compris.
Alors, pour la pénurie de matériaux, faut dire qu'elle a commencé avant le Covid, hein. On se souvient de pénurie de bois. Il y a les pénuries d'agrégats pour le béton, il y avait les ruptures du stock mondial des isolants en polyuréthane, ça a été très passager mais c'était quand même assez remarquable. Il y a eu un monde aussi pénurie d'acier quand les Chinois se sont mis à tout construire en acier et j'en passe. Donc c'est pas quelque chose qui date du Covid, c'est quelque chose qui date bien avant et qui à mon avis structurel. Et est-ce que vous l'avez déjà senti, est-ce que vous l'aviez anticipé ou est-ce que c'est aujourd'hui qu'on s'en rend compte ?
Non, on le sait depuis effectivement longtemps. On vit sur depuis 10 ans sur une accélération de ces phénomènes, notamment du fait de l'émergence des puissances industrielles asiatiques, chinoises, indiennes et le reste de l'Asie d'ailleurs. L'émergence de l'Asie comme puissance industrielle et manufacturière a décuplé cette problématique de l'accès à la ressource et notamment de la ressource énergétique. Donc on sait très bien qu'on vit un peu les derniers instants de cette économie hyper carbonée et surpuissante. Effectivement, au premier petit caillou sur la chaussée, la voiture sort de la route.
Ouais. Hein. Guillaume Meunier, avec la raréfaction du bois, est-ce que c'est la seule façon de construire décarboné ? Ou est-ce qu'on peut construire autrement décarboné si on n'a plus de bois ?
Non, il y a le mot qui a été prononcé, c'est mixité. Un des problèmes, c'est que ça fait presque 50 ans qu'on construit tout le temps de la même manière et qu'il n'y a pas eu d'évolution dans les modes constructifs. Il y a eu des petites incrémentations plutôt techniques, mais rien n'a fondamentalement changé sur les 30 dernières années. Donc le changement d'idée, c'est de se dire qu'on arrête de construire comme on le faisait ne serait-ce qu'il y a 5 ans et que forcément, de base, un bâtiment doit avoir une certaine mixité de structures, de façades, c'est presque dommage parce que c'est presque du bon sens. À une échelle un peu plus petite, on retrouve ce phénomène quand on parle de bioclimatisme. Le bioclimatisme, c'est juste avoir du bon sens et bien construire intelligemment. Après, on peut avoir des règles techniques, des méthodes de calcul, mais donc oui, et On dit souvent construire bois, même moi je dis souvent construire bois. En réalité, effectivement, la vraie phrase c'est construire biosourcé ou géosourcé. Ce qui est un peu plus long à dire, donc on a souvent tendance à dire construction bois, mais la pierre est un matériau très bas carbone. La terre crue, il y a énormément de projets de cahiers techniques qui sont en train de sortir ou qui sont sortis sur la terre crue. Et effectivement, la règle derrière tout ça, c'est toutes les énergies fossiles qui nous permettent de produire des matériaux, l'exemple du ciment qui est dans les hauts fourneaux, qui est chauffé à très température.
Je voudrais peut-être ajouter que, effectivement, cette notion d'hybridation de la construction est absolument fondamentale. Il ne s'agit pas du tout d'éliminer ni le béton, ni l'acier dans la construction. Il s'agit de l'essentialiser, c'est-à-dire de l'utiliser dans la construction en même temps que d'autres matériaux à l'endroit où il est le plus pertinent pour ses qualités dynamiques. Voilà. Et donc, c'est ce bon sens que vous évoquiez de la construction qu'il faut retrouver pour éviter de faire juste tout la même chose avec un seul matériau qu'on tartine au milieu, sur les côtés, sur les façades, etc. Un peu d'intelligence.
Et sur toutes les parties du pays. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer, on peut aussi imaginer que la construction, elle varie en fonction des régions, en fonction des ressources, qu'on n'est pas obligé d'avoir une solution qui est globale pour toute la construction.
Vous avez raison, c'est toute l'histoire de l'architecture. Enfin, il y a évidemment, la construction, c'est pas pour rien qu'elle n'est pas la même en Alsace ou dans le Pays Basque. Parce qu'effectivement, traditionnellement, avec ce bon sens que vous évoquiez, dans l'histoire, on a fait avec ce qu'on avait sur place. Donc il faut retrouver un petit peu de ce bon sens. J'aime bien ce mot du bon sens.
Je voulais revenir sur ce mot du bon sens. Avec la limite, c'est que faut aussi faire attention au bon sens. C'est que maintenant, on a des techniques, des méthodologies. Si je prends le bilan carbone, certaines personnes, pas ici, peuvent abuser du mot bon sens. Et on voit parfois le bon sens affiché. C'est du bon sens. Et plein de projets plutôt très carbonés se disent, mais c'est le bon sens d'avoir fait ça.
Il y a le bon sens, il y a le bon sens économique,
donc il y a le bon sens, d'accord, ouais. Mais attention, je le vois trop souvent écrit, mal écrit en tout cas.
Alors on parle beaucoup de la naissance du cradle to cradle, enfin la naissance du matériau jusqu'à sa fin de vie, et en fonction de type de matériau qu'on utilise, les paradigmes changent un peu. On comprend du bois, c'est vrai que c'est géosourcé, biosourcé. Mais en fin de vie, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut le recycler? Si on le brûle, finalement, on relâche tout le carbone emmagasiné dans la nature. Donc, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de changer notre manière de voir par rapport à cette fin de vie du matériau?
Alors, c'est là où la technique peut nous aider. Ce qu'on fait pour analyser ces phénomènes, on utilise des ACV, analyses de cycle de vie, qui décrivent justement, en français c'est du berceau à la tombe, ou en anglais cradle to gate, qui permet d'analyser, de chiffrer les données environnementales des produits qu'on utilise. Et effectivement, avec la question, alors il y a la norme qui fixe sur 50 ans la durée de vie, je précise bien, c'est une norme, ça veut pas dire qu'on détruit le bâtiment au bout de 50 ans, c'est une norme, c'est pour simplifier le calcul. Et ce qui se passe au bout de ces 50 ans, c'est une question fondamentale, et c'est l'un des enjeux majeurs de l'évolution de la règle d'ACV de la RE 2020. Et globalement, l'évolution de la règle jusqu'à présent, c'est qu'on avait tendance à considérer que les matériaux biosourcés étaient effectivement brûlés, mis en déchetterie, et donc relarguaient le carbone qu'ils avaient stocké en début de leur cycle de vie. La nouvelle règle dit, en fait, finalement, si je décale dans 50 ans une émission, j'ai moins d'impact sur la planète, c'est physique, c'est vrai, j'ai 50 ans d'émission en moins, et ce qui fait que je lui donne un peu moins de poids. Donc l'évolution de la règle et de la norme de la RE 2020 va dans le bon sens, où il y a cette prise en compte et il y a cette évolution physique qui permet de dire oui, un matériau biosourcé a un impact plus faible qu'un matériau non biosourcé. C'est bien biosourcé, géosourcé, c'est juste je sais d'où il vient, pour faire simple, biosourcé, c'est il est issu de la planète.
Guillaume Meunier.
Oui,
Laure Morel,
juste pour compléter là-dessus, c'est vrai que aujourd'hui on a la chance extraordinaire, je le dis sous forme de chance, d'avoir une réglementation nouvelle qui s'appelle la RE 2020, qui est un trésor pour l'industrie de la construction française, puisque c'est une façon de comptabiliser le bon sens, et c'est une réglementation qui a été travaillée au fond de façon tout à fait remarquable, et donc qui offre un cadre réglementaire, intelligent, dynamique, ambitieux et juste à l'ensemble des métiers de la construction, c'est une originalité française unique, à ma connaissance, en Europe. Il y a des réglementations en Angleterre, mais qui ne prennent pas en compte le carbone embarqué. Voilà, donc on a là un cadre juridique pour éco-conditionner la construction, hein, et qui va emmener l'ensemble de la profession dans une meilleure performance et une accélération de la transformation des pratiques en matière de choix de matériaux et de mise en œuvre. Mmh. Hein, donc c'est vraiment, si j'ai un message à passer, une loi à prendre positivement. C'est pas toujours qu'on a des réglementations intelligentes, et donc là il faut le dire et le répéter.
On reviendra sur la réglementation environnement de 2020, la RE 2020 comme vous dites. Il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus, mais en attendant, je vous propose de nous transporter au pavillon de l'Arsenal pour une petite visite de l'exposition L'empreinte d'un bâtiment, construire léger et décarboné, avec Philippe Risotti, commissaire scientifique.
On se trouve au pavillon de l'Arsenal pour une visite de l'exposition L'empreinte d'un habitat, construire léger et décarboné. On a appliqué un protocole en créant des maquettes numériques de 33 projets qu'on a étudiés donc sur cette période d'environ un siècle pour évaluer à l'aune de cette nouvelle réglementation, la masse respective de tous les matériaux mis en œuvre dans la construction. On vit dans un monde fini, avec des ressources finies, et toute l'industrie s'est développée avec l'idée que les ressources étaient inépuisables. Quantifier la matière de la construction, qui est la première source de consommation de ressources naturelles à l'échelle mondiale, hein, c'est 40% des ressources consommées, 30% des déchets, il devient nécessaire d'évaluer avec précision l'utilisation des matériaux mis en œuvre dans la construction. L'idée, c'est de vérifier combien pèse un bâtiment. Un pavillon classique, on évalue à peu près à 1 tonne 2. Une construction ossature bois mixte béton pèse environ 700 kg du mètre carré. La maison démontable F88BCC, donc de Jean Prouvé, Pierre Jeanneret, elle fait 96 kg du mètre carré, donc elle est extrêmement légère, et elle fait seulement 55 kg équivalent CO2 par mètre carré. Donc elle est 12 fois moins impactante. Elle est aussi 100% démontable, c'est-à-dire que n'importe quelle pièce de ce bâtiment peut être ensuite démontelée, réutilisée. Elles peuvent être recyclées, upcyclées, réemployées, et du coup c'est pour ça que, à mon sens, la maison 8x8, c'est la parfaite démonstration de ce qu'on devrait tous faire aujourd'hui. Richard Buckminster Fuller, c'est la Dimaction House. Ici, on étudiera la Wichita House. 43 kg du mètre carré, ça représente 137 kg équivalent carbone, à comparer aux 640 kg de la nouvelle réglementation. Donc Buckminster Fuller, déjà il y a quasiment un siècle, est 4 fois plus performant que notre nouvelle réglementation environnementale. Makoto Mazuzawa, il va faire ce projet début des années 50 au Japon, dans un contexte où il n'y a plus de ressources disponibles. Il va rationaliser l'utilisation de la matière par rapport aussi aux usages. Si on divise, Zobek il le dit très bien, ne serait-ce que de 20% la matière consommée dans la construction aujourd'hui, c'est comme si on économisait directement 10 ans de consommation énergétique sur tous ces bâtiments. On peut pas se limiter juste à compter le nombre de kilos au mètre carré et en disant, mon projet est léger, donc c'est la réponse absolue à vos problèmes. Concevoir des systèmes est bien plus intéressant que de faire le concours de formes en permanence. Il est important que toutes les filières se réinventent pour finalement proposer des solutions les plus intelligentes et les plus adaptées. Il faut se poser la question de la relation entre l'efficacité des solutions mises en œuvre et la consommation de ressources naturelles qu'elles induisent.
Guillaume Meunier, la légèreté est-elle, comme il est dit ici dans ce petit reportage, un axe qui pourrait dépasser les objectifs de la RE 2020 ?
Non. Mais comme je vais en dire un peu plus. Alors déjà, c'est effectivement une très belle exposition qui aborde les sujets de front. J'aime bien toujours avoir un peu plus de subtilité. Hein, le bâtiment, c'est pas que le poids.
Il le dit. Ce qui est important, c'est le système mis en place pour élaborer des constructions qui puissent être à la fois légères, démontables, réemployables, modulables. C'est pas que le poids ou la forme.
C'est ça. Ce qui est intéressant, en fait, c'est toujours de mettre dans la balance la matière qu'on utilise pour construire un bâtiment et l'énergie qu'on va consommer. La plupart des exemples cités, c'était avait des bâtiments qui étaient plutôt très énergivores, à un moment où on avait beaucoup d'énergie, où l'énergie était très peu chère, donc effectivement on pouvait ne pas, on se posait pas de questions sur la quantité d'énergie. Alors depuis, il y a eu quelques problématiques d'approvisionnement pétrolier, et on a imaginé des réglementations thermiques qui disaient on va consommer moins d'énergie. Mais c'est intéressant, c'est que jusqu'à présent on parlait que d'énergie, et la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, remet dans la balance où est-ce qu'on a envie de mettre le carbone. Est-ce qu'on veut le mettre sur l'énergie, sur la matière? On s'est aperçu qu'à force de trop contraindre l'énergie, on oubliait complètement la matière et qu'on avait des disproportions où c'est tout le poids carbone d'un bâtiment était dans la matière. Mmh. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne remettrait pas la balance? On met beaucoup plus d'efforts sur la matière, peut-être quitte à consommer un peu plus d'énergie, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, mais il y a ce choix à faire, et c'est ce qu'apporte cette nouvelle réglementation, et c'est quelque part ce que dit cette exposition. On peut faire des bâtiments très légers. Après, est-ce que c'est à confort idéal, et c'est un vrai sujet, le confort, est-ce que c'est à consommation d'énergie identique? C'est pas tout à fait la même chose.
Ce qu'on voit quand même dans l'expo, c'est que pour avoir un bâtiment performant au niveau thermique, ça rajoute pas énormément de poids. On le voit après les autres exemples. Laurent Morel, peut-être vous avez une observation là-dessus?
Si, justement, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire qu'en fait, l'exposition donne de façon exemplaire des constructions qui sont très faibles en carbone embarqué dans la construction, c'est-à-dire en poids des matériaux, essentiellement, c'est ce qui est expliqué, sans considération, comme vous le disiez à l'instant, de la consommation d'énergie à l'époque. Bien, on est passé ensuite par une phase RT 2012 où on ne regardait que l'énergie, au détriment de cette fois-ci du poids de la construction. Donc, on n'a pas regardé le poids de la construction pour maximiser l'efficacité énergétique sur la durée de vie. Et puis, au fond, dans la RE 2020, c'est une synthèse, c'est-à-dire qu'on regarde les deux en même temps, et on va sommer dans la CV à la fois le carbone gris, c'est-à-dire le carbone embarqué dans la construction d'une part, plus l'énergie consommée sur la durée de vie de 50 ans du bâtiment. Voilà, donc la performance, la performance environnementale réclamée par la RE 2020, elle est synthétique de la construction et de la consommation. Et donc là, on a une équation complète du carbone embarqué dans la construction sur la durée de vie, sur la durée d'usage du bâtiment.
Il est plus facile d'augmenter le poids du bâtiment que de le baisser, en tout cas, par rapport à nos habitudes aujourd'hui.
Oui, en tout cas, ce que nous enjoint de faire la RE 2020, c'est d'être complet dans l'analyse, hein, et donc d'être exhaustif. Donc, encore une fois, c'est une synthèse des différentes initiatives qu'il y a eu sur ce sujet depuis des années. Tout le monde se préoccupait, mais là, on a quelque chose. C'est en ça que cette réglementation est assez remarquable. C'est qu'elle va nous porter pendant très longtemps parce qu'elle est, très complète, hein, très intelligente.
Alors Werner Zobeck, qui est cité par Philippe Risotti dans ce reportage, qui est donc Werner Zobeck, l'un des ingénieurs les plus influents originaire d'Allemagne, il milite pour la légèreté des structures. Il affirme que diminuer 20% du poids du bâtiment, c'est équivalent à 10 ans de consommation d'énergie. Donc, est-ce que on voilà, ce n'est pas une balance à faire là-dessus?
C'est bien d'affirmer, c'est mieux de calculer. Hein. Mmh. Et donc, ce que la réglementation RE 2020 permet de faire en France, c'est justement de calculer objectivement, de façon transparente, éventuellement contradictoire, sous forme d'ACV. Donc, on affirmera, mais surtout on calculera et on démontrera. Hein. Mmh. Et donc, on aura une mesure objective de la performance synthétique globale de chaque mètre carré construit.
Guillaume Meunier, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je trouve ça intéressant, c'est que ces dernières années, on avait tendance à promouvoir l'approche, on va dire, allemande du passive house, de faire des boîtes très fermées, très opaques, avec beaucoup de matière, pousser presque le vis jusqu'au triple vitrage, voire triple vitrage et double pot, pour avoir des bâtiments qui consomment très peu. Et c'est vrai que si on fait le bilan sur 50 ans, on s'aperçoit que c'est pas forcément d'une très grande rentabilité. Et si je poussais le vice à l'extrême, c'est se dire ce que... Parce que quand je pose de la matière, je la pose maintenant, elle est ancrée dans le sol, elle ne bougera pas pendant les 50 ans qui viennent. Là où l'énergie, je vais la consommer pendant les 50 ans. Donc on sait que tendanciellement, le mix énergétique français va s'améliorer. C'est pas idiot de dire que dans 20 ans, on aura des pompes à chaleur ou des systèmes énergétiques qui sont bien plus performants. Je parle pas de non plus de choses extraordinaires. Et quelque part, le plus important, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'a rappelé le GIEC, c'est ce qu'on dit tous. C'est les kilos de CO2 que j'émets maintenant sont absolument fondamentales. C'est ces kilos-là qui vont entraîner le climat dans les 5 et dans les 50 ans à venir. Donc, presque, si je voulais caricaturer, on pourrait revenir à l'idée, je mets le moins de matière possible et je consomme trop d'énergie. Bon, mais alors, quand je dis ça, je fais exprès de faire l'exemple extrême. Parce que l'énergie, finalement, c'est un sujet, quoi qu'il arrive, qu'on sait bien maîtriser maintenant. Hein, les RT 2012, et il y a extraordinairement plein d'ingénieurs très compétents là-dessus. Finalement, l'énergie pourrait presque être un sujet secondaire. Alors après, ça pose plein d'autres questions. Ça pose la question de la facture des habitants, ça pose la question du confort, ça pose d'autres choses. Mais philosophiquement, j'ai presque envie de dire que cette approche minimaliste d'en mettre le moins possible, c'est presque la bonne idée. Et c'est quelque part ces questions qu'on se pose là, c'est grâce à l'Aéro 2020, grâce à la CV, c'est grâce à ces méthodes qu'on peut comparer clairement. Est-ce que je rajoute 20 cm d'isolant? Ok, je consomme moins d'énergie, voilà. Mais si c'est de l'isolant carboné et pas issu de la biomasse, clairement, ce ne sera pas rentable.
D'accord. Et alors, cette RE 2020, quelque part, condamne un peu la construction en béton? Parce que c'est quand même le matériau le plus lourd de la construction.
Non, elle condamne la construction en béton traditionnel et ça condamne surtout le béton à évoluer très rapidement. En fait, la manière de faire du béton n'a pas beaucoup évolué. Alors après, il y a des contraintes réglementaires. Elle n'a pas beaucoup évolué. Et quand on parle de béton bas carbone, assez souvent, en fait, c'est des bétons qui existaient déjà et qui étaient utilisés déjà. C'est juste qu'on a changé la dénomination. Ils avaient des contraintes mécaniques un peu différentes et on les appelait béton bas carbone. Donc là maintenant, il y a vraiment, on voit un peu tous les nouveaux produits autour du béton, et pour être précis, plutôt autour du ciment, on voit apparaître des bétons de bois, des formulations de ciment très spécifiques qui permettent de modifier la manière de construire. Et c'était bien résumé tout à l'heure, c'est que ce qu'il faut maintenant absolument, c'est là où ce n'est pas nécessaire, ne pas mettre du béton. Là où c'est nécessaire, hein, des infrastructures, des sous-sols, honnêtement, pour l'instant, hormis en béton, on ne sait pas le faire. Donc, clairement, il faudra du béton. Et par contre, il faut que ça soit à sa juste valeur. Hein. Un grand chiffre, c'est l'ordre de grandeur. En France, c'est même pas 10% de la construction qui est en construction bois biosourcé. Donc, on a un rattrapage très fort à faire. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut 90% de la construction en bois biosourcé. C'est juste que 10%, c'est pas du tout à la juste valeur et lié aux enjeux climatiques.
Laurent Morel.
Oui, parce que pour ce qui est du biosourcé, les ressources ne sont pas infinies non plus. Hein. Donc, c'est-à-dire que la quantité de bois disponible, de bois d'œuvre disponible en particulier, n'est pas si importante quand on regarde bien. Donc, on a besoin de tous les matériaux. S'agissant du béton, bien sûr qu'on va continuer à utiliser du béton. On va utiliser mieux du béton, pas moins de béton, on va utiliser mieux du béton. Un béton de meilleure qualité, moins carboné, c'est-à-dire avec moins de carbone dans le clinker, moins de clinker dans le ciment, moins de ciment dans le béton, moins de béton dans la construction à des endroits où il est plus essentiel à la construction en matière de structure et dans d'autres endroits, au lieu d'utiliser du béton un peu bêtement, on va mettre d'autres matériaux qui sont moins carbonés. Donc au total, une performance globale environnementale du bâtiment basée sur un ACV global où le béton a évidemment toute sa place, sans compter les infrastructures, les travaux publics, etc. Donc c'est plutôt une chance, encore une fois, pour les industriels du béton français qui vont pouvoir parce que le béton est un produit quand même essentiellement local. Hein, donc ça va permettre à l'industrie française du béton de progresser dans ce cadre réglementaire plus vite que celle de d'autres pays.
Le béton bas carbone, excusez-moi de vous couper, le béton bas carbone est un peu quand même remis en question en ce moment. Il y a quand même pas mal de polémiques autour de ça. Guillaume Meunier, vous êtes exprimé sur ce sujet d'ailleurs.
Oui, j'en ai beaucoup parlé. C'est là où autant j'ai tendance à dire que l'Aéro 2020 c'est un travail d'architecte. Il y a dans les détails des sujets très techniques bien et sûr. Il faut se plonger dans le détail du chiffre. La problématique du béton bas carbone, c'est que le remplacement du ciment par le clinker, on a considéré pendant longtemps que le clinker n'avait pas d'émissions carbone. Et sauf que c'est faux, et tous les calculs, mais alors donc faut vraiment rentrer dans le détail du calcul, montrent que ça a un impact, et c'est un impact non négligeable qui change la valeur de la CV.
Donc, pour les matériaux géosourcés, donc la terre, la pierre, ce sont des matériaux lourds.
Lourd, mais il n'y a pas de processus typiquement avec de la haute chaleur et du charbon, du pétrole. La différence très simple qu'on peut retenir, c'est terre crue, terre cuite. Terre crue, c'est très bas carbone. Terre cuite, forcément, on la cuit dans des fours, souvent chauffés au charbon. Donc non, c'est pas très bas carbone.
Ouais, je voudrais préciser que je voudrais préciser que sur le béton, il faut pas parler du béton bas carbone. Il faut parler des bétons bas carbone. C'est-à-dire qu'il y a plein de processus de décarbonation du béton, y compris dans la filière traditionnelle du béton avec clinker. Même là, il y a des gains de 30-40% qui sont en cours de mise en place. Donc, il y a des bétons bas carbone. Il y a des bétons moins carbone, globalement. Il n'y a pas un seul type de béton.
Je vous propose d'écouter maintenant la chronique de David Trottin sur cette histoire de naufrage.
Oui, bonjour. C'est plutôt une histoire de naufragé dont je vais vous parler, particulièrement de Robinson Crusoe. C'est un personnage qui transforme la survie en art de vivre. Voilà. Quand on est architecte, on se rappelle toujours de ce qui vous a marqué avant de devenir architecte, ce qui pouvait être un bâtiment, une histoire, un mode de construction, des choses qui vous ont comme ça tapé dans l'œil et qui vous ont conduit à faire ce métier. Dans mon cas, c'est clairement Robinson Crusoe. L'histoire de ce type qui est dans une mer de noir, seul, perdu sur une île, qui, si on le cite, dit « J'avais de fortes raisons de croire que par arrêt du ciel, je devais terminer ma vie dans cette triste manière, dans ce lieu de désolation. » Il parle d'une île qui nous ferait tous rêver, mais lui, il l'aperçoit comme un lieu de désolation. Robinson, avec ses moyens réduits d'un homme seul, au début en tout cas, va batailler pour se fabriquer une vie confortable avec le peu de matériel qu'il a pu sauver du naufrage. Après une longue quête, je découvris le coffre du charpentier, qui fut alors en vérité pour moi une capture plus profitable et d'une bien plus grande valeur que tout un vaisseau rempli d'or. Le reste, ce sera les éléments de son bateau échoué et les ressources renouvelables disponibles dans la nature de son île. En inventant avec les moyens du bord, son habitat et la satisfaction de ses besoins vitaux, il pose pour moi les bases d'une architecture frugale.
Alors, moi je vous vois venir, Robinson Crusoe, c'est un peu l'upcycling ?
Exactement, on peut dire que c'est l'inventeur de cette manière d'accommoder les restes. Et ça fait rêver avec une bonne dose d'optimisme, peut-être aussi un petit peu de soleil. Quand je suis devenu architecte, dans la continuité de notre Robinson, je me suis intéressé aux maisons auto-construites en Australie. Nous avons à l'époque pu partir nous documenter la recherche de ces centaines de modèles qui inspiraient l'architecture de Glen Murcutt et qui peuplent la Gold Coast, donc c'est la côte est de l'Australie. Ces maisons, bungalows, cabanes, sont des lieux d'une inventivité architecturale absolument incroyable, dans la légèreté notamment, et dans la manière de prendre en compte les contraintes climatiques, le soleil, le vent, l'eau et aussi les serpents par extension, puisque c'est une des conditions locales, dans leur mode constructif. Dans ces zones qui sont très isolées, les constructeurs réutilisent tout ce qui est possible de récupérer, tout ce qui le permet. Et donc chaque maison, la feuille de tôle, ondulée et le bois qui en sont les matières premières, ont ainsi deux ou trois vies. Cela se voit, c'est beau. Ça continuera et ça continuera tant que la matière sera rare, puisque c'est essentiellement ça qui justifie cette notion de réemploi. Ici, comme chez Robinson, on gère la pénurie en inventant un art de vivre. Voilà. Pour conclure, on peut retrouver cet esprit d'économie de moyens qui fait rêver plus que contrainte dans un ouvrage qui s'appelle The Barefoot Architect. On pourrait traduire l'architecte aux pieds nus, qui est écrit en 2008 par Johan van Leggen et qui, sur près de 700 pages, explique avec force schéma comment faire avec les ressources qu'on a sous la main en s'inspirant des techniques traditionnelles. Je vous encourage vivement à lire ce livre qui, quelque part, pose les bases d'une architecture comme art d'accommoder ce qu'il nous reste.
Alors, Guillaume Meunier, est-ce que vous pensez qu'on est prêt un peu pour cette révolution de l'upcycling et réemployer comme si on était sur un naufrage, une île déserte ?
J'ai foi en les architectes et l'architecture, donc je dirais oui. La règle et la norme plutôt la norme que la est un peu plus contraignante. Donc on peut pas non plus tout faire et faire n'importe quoi. Mais les mentalités changent. Moi j'ai presque pas un projet où quand je dis il faut regarder les déchets, essayer de réemployer, tout le monde me dit oui. C'est on y pense, on y réfléchit. Après ils ont pas les méthodes, les outils, mais il y a plein d'acteurs qui s'y penchent sérieusement. Et on voit encore une fois, on parle beaucoup de l'ère 2020, mais l'ère 2020 par exemple considère que les matériaux réemployés sont comptés à zéro. Donc c'est un alors ce qui est physiquement pas tout à fait juste, mais cette simplification va dans le sens de d'orienter la filière en clairement disant il faut des matériaux réemployés. Et il y avait une sur la première chronique, nous on a eu le cas d'un projet où on a eu une problématique d'approvisionnement et le premier réflexe a été de chercher des matériaux réemployés. Bon, on n'a pas réussi à le faire pour d'autres contraintes, etc. Mais je trouve que les gens sont globalement prêts, et pas seulement dans le bâtiment et dans l'architecture, mais dans presque tous les modes de vie, dans l'habillement, etc. Donc, moi, je dirais, je suis plutôt quelqu'un de très optimiste. Et allons-y gaiement et joyeusement.
Laurent Morel, vous, à l'AIFP, vous en parlez beaucoup de l'upcycling.
On parle de la prescription bas carbone, on parle du réemploi, le booster du réemploi, on a la manœuvre sur les aspects d'économie d'énergie. Globalement, de l'existence, je veux dire. Hein. Donc globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a maintenant vraiment une préférence collective pour ces nouvelles pratiques hein, globales. C'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément tous capables de faire des ACV, loin de là, parce que c'est compliqué cette affaire de carbone. Hein, y a plein de faux amis, mais globalement, il y a un désir pour quelque chose de... Enfin, les gens ont compris quand même les enjeux, et donc il y a un désir pour des pratiques vertueuses. Hein. Donc c'est... donc il y a le terreau est là, notamment chez les plus jeunes. Enfin, on n'envisage pas quand on est même collaborateur dans une entreprise que son entreprise n'est pas une démarche vertueuse. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui rentrent pas dans des boîtes parce que les intentions de l'entreprise sur ces sujets-là sont pas claires. Hein. C'est ça qui est en train de se passer en vérité. Donc oui, ça bouge. Ça bouge. Il faut accélérer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. Hein, chaque année qui passe nous rapproche du seuil de l'insupportable en termes de réchauffement climatique. Voilà. Donc il faut aller vite aussi.
Mais on parle par exemple de Immobilière 3F. Ils ont prévu donc toute une capacité à passer au recyclage, mais les premiers bâtiments qui vont être vendus d'efficience seront vers 2028. Donc c'est déjà trop tard presque, non ?
Déjà un point, il y a recyclage et réemploi. Le premier recyclage, c'est d'abord le réemploi de l'existant. Mmh. Hein, donc on va remettre dans des bâtiments neufs ou en transformation des éléments entiers qu'on a extraits de déconstruction par ailleurs. Hein. Et puis ensuite, quand on n'y arrive pas, il y a un deuxième étage qui consiste à recycler les matériaux pour les remettre dans des nouveaux éléments constructifs. Mais tout ça, ce sont des pratiques. Et ce sont des apprentissages, à la fois pour l'offre, tout autant que pour la demande. C'est-à-dire que quand on est chef de projet, architecte, c'est pas simple de recommander à son donneur d'ordre le réemploi ou le recyclage. Parce que c'est des enjeux de transformation, c'est des nouveaux risques à prendre, des nouvelles pratiques. Donc tout ça, ça avance, mais il faut que les connaissances et les savoir-faire avancent en même temps.
Il y a des questions d'assurance aujourd'hui.
Bien sûr. Oui. Tout à fait, c'est gêné de poser la question. C'est qu'en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas des blocages au niveau de l'assurance ?
Lorsqu'on s'occupe dans le booster du réemploi à l'IFPEP de ce sujet, notamment, on a tout un volet assurabilité. Hein, et donc, on va voir les assureurs, on dit voilà, ça se passe, ça existe, voilà des exemples, ça marche. Ah d'accord, donc je le prends en décennale, etc. etc. Voilà.
J'en parlais hier avec Cycle Up, Hugo Bonnet, qui va être, j'espère, invité dans une prochaine émission consacrée au recyclage et au réemploi. Et il nous disait que justement, ce n'était pas un problème du tout. Côté normatif, le côté fiche technique, un matériau, il est remployé dans les mêmes conditions qu'il l'était il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et pour l'instant, eux, ils n'observaient aucun problème par rapport à ça. Donc le problème de l'assurance, de la fiche technique, du DTU, du bureau de contrôle, c'est quelque part un faux problème, non ?
Sur les aspects structurels de façade, c'est pas encore... Oui. Effectivement, pour tout... Hormis structurer les façades, oui, clairement, ça bouge. Moi, j'ai beaucoup aimé le mot désir. Et effectivement, il y a un vrai désir pour ces solutions-là. Et faut mettre en parallèle l'un des grands intérêts, c'est que c'est plus compliqué de poser des matériaux réemployés. Mais quand je dis plus compliqué, c'est qu'il faut être plus intelligent. Donc pour moi, c'est plus de travail et ça évite les solutions toutes faites qu'on reproduit dans le nord de la France, dans le sud, parce que l'intérêt du réemploi, c'est que c'est très local, c'est très spécifique à un site, à un bâtiment, et ça demande plus d'intelligence en fait. Et c'est peut-être ça la difficulté, c'est que on a tous tendance à être un peu feignants sur plein de choses. Et sauf que là, dans notre métier d'ingénieur, d'architecte, on est censé être plus intelligent parce que c'est pas non plus facile. Le réemploi, c'est plutôt à flux tendu. C'est je peux pas poser, j'ai des quantités limitées ou supérieures, etc. Donc je dois plus me creuser la tête. Et je trouve ça très intéressant. C'est plus de travail, mais du bon travail. Et ça redonne du sens aussi. Réattaquer la matière, et c'est aussi le rôle de la CV, c'est, on se dit finalement quelle matière je mets. Et avant, où on voyait les matériaux, on pouvait les choisir très très tard dans les phases de projet, sur les bâtiments bas carbone, justement, on les choisit de plus en plus tôt parce qu'on se préoccupe de spécificités très techniques d'un matériau parce que je sais qu'il est bas carbone.
Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que les architectes de Encore Heureux avaient mis en place un CCTP à trous. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toute une partie du CCTP qui devait être remplie au fur et à mesure avec ce qu'on trouvait sur place, etc. Et donc ça veut dire qu'il faut changer notre manière de construire, de concevoir. Il faut s'adapter, il faut être plus agile, plus flexible aussi.
Ce qu'on voit aussi maintenant, c'est ce qu'on fait dans beaucoup de projets bas carbone, c'est que dans les CCTP, on inclut des clauses de budget carbone. De la même manière qu'on fixe des budgets en euros, on fixe des budgets carbone et on laisse aussi, ce qui permet de laisser cette souplesse aux entreprises de faire des propositions tant qu'elles respectent un budget carbone. La même chose avec les euros. Et donc c'est vraiment une nouvelle manière de travailler, mais qui va dans le bon sens. On dit, vous pouvez nous proposer des choses, mais soyez intelligents.
Alors, Laurent Morel, moi je vous ai parlé tout à l'heure de la RE 2020 qui est un peu en filigrane hein, dans cette émission. Et moi ma question c'est, elle porte quand même pas mal sur les bâtiments neufs. Quand on regarde dans nos métropoles françaises, on a un taux de renouvellement urbain qui est autour de 1%. Est-ce que, quelque part, c'est pas un peu trop lent pour atteindre des objectifs de 2050
Non, mais vous avez raison. Un énorme enjeu de la transition, c'est la rénovation de l'existant. Bien. Ceci étant dit...
Est-ce qu'on est prêt pour cette rénovation? Parce qu'on voit très bien, les acteurs économiques ne sont pas du tout prêts, quand on voit n'importe quel promoteur immobilier, quand il faut requalifier un bâtiment existant, non, on reste on en refait du neuf.
Non, mais c'est, on va revenir sur le sujet des hommes et des femmes qui travaillent dans le bâtiment. Travailler la construction bas carbone, c'est travailler d'une autre manière, comme vous le disiez à l'instant. C'est travailler avec plus d'intelligence, moins de matière. Hein. Donc, c'est plus de travail pour les architectes, plus de travail pour les ingénieurs. Et ça, c'est extrêmement, c'est plus de travail et plus d'intelligence pour les corps de métier. C'est des nouvelles pratiques. On n'installe pas une pompe à chaleur comme on installe une chaudière à gaz. On ne met pas en œuvre le réemploi comme simplement couler du béton. C'est pas les mêmes savoir-faire et c'est plutôt des savoir-faire plus subtils, plus intelligents, qui font appel à l'intelligence, au travail, à la valeur ajoutée. Donc tout ça, c'est extrêmement valeureux, en vérité. C'est-à-dire qu'en fait, la transition, c'est une très 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 bonne nouvelle pour les gens qui aiment ce métier et qui ont envie d'en faire leur métier, parce que c'est plus d'intelligence, plus de valeur. Bon, donc là où le neuf est très important, c'est que c'est dans le neuf que les filières s'initient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation de l'offre des corps de métier s'il n'y a pas une structuration très forte du neuf. C'est dans le neuf, c'est grâce au neuf que vont se constituer les nouvelles offres. Hein. C'est parce qu'il deviendra quasiment impossible d'installer un chauffage fossile dans un bâtiment neuf, par la RE 2020, c'est ce que la RE 2020 dit, et Barbara Pompili l'avait rappelé. De fait, ça veut dire l'installation d'un chauffage fossile devient extrêmement compliquée dans un bâtiment neuf. C'est interdit dans plein de pays d'Europe, hein, l'installation d'un chauffage fossile, gaz ou fuel, dans un bâtiment neuf. Hein, donc il n'y a pas... Donc simplement, ça veut dire qu'à ce moment-là, ça veut dire que tous les corps de métier s'intéressent au chauffage des bâtiments vont devoir bouger leur savoir-faire vers la pompe à chaleur, vers d'autres formes de chauffage, vers le chauffage bois, etc. Donc, et une fois que ces corps de métier sont constitués, que l'offre est structurée, alors elle est beaucoup plus à même de susciter une demande de rénovation et de la... Voilà. Donc vous voyez que...
Donc le neuf est la locomotive de la rénovation. Oui. Et si on... Moi, je me rappelle très bien quand est sortie la RT 2012. À l'époque, tout le monde nous disait, ça y est, c'est fini. L'isolation par l'extérieur, ça sera plus possible. Les calculs ne seront plus permis, ne le permettront plus. Et puis très vite, les habitudes se sont réinstallées. Les règles de calcul, on rajoute un petit peu d'isolant par-ci. On rajoute des rupteurs thermiques par-ci, par-là. Et au bout d'un an, deux ans, on est revenu à des bâtiments en isolation par l'intérieur et on est retombé dans ce même schéma assez inefficace de performance énergétique. Donc, moi, mon inquiétude, est-ce qu'il ne va pas se passer la même chose avec les RE 2020, c'est-à-dire, comme on a des fiches techniques qui sont parfois fournies par les fabricants de matériaux eux-mêmes, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de trucage des chiffres pour finalement détourner les effets positifs de la RE 2020.
Je vais reprendre clairement la RE 2020, et c'est pour le coup vraiment une très bonne réglementation, que ça fait 6 ans qu'on y travaille, etc. Et elle a à peu près envisagé beaucoup de choses, et ce qui est intéressant dans la RE 2020, c'est qu'elle donne une trajectoire. Les seuils de la RE 2020 sur la partie carbone sont évolutifs dans le temps. Et si on regarde les courbes, elles suivent quasiment la stratégie nationale bas carbone qui elle-même s'inspire du GIEC. Donc il y a une espèce de descendance comme ça. Le GIEC dit il faut absolument viser la neutralité carbone. La stratégie nationale bas carbone et cette grande stratégie, la RE 2020, n'est presque l'application. Et elle nous dit presque comment construire déjà en 2030. Donc même si effectivement il y a des avantages qui vont apparaître dans des fiches, dans des notes de calcul, clairement tous les trois ans, c'est plus de 10% de réduction du bilan carbone. Et juste pour revenir sur la réhabilitation, moi j'y vois un indice supplémentaire, et toutes les discussions qu'on a avec les promoteurs, c'est ça, c'est que la RE 2020, par contre, on va pas se le cacher, est très contraignante, en tout cas pas le premier seuil en 2022, mais en 2025, on ne pourra pas vraiment pas construire comme on le fait maintenant. Et le fait qu'il y ait une réglementation très stricte sur le neuf et quasiment rien sur l'existant, tous les promoteurs avec qui je parle se disent « Ok, je crois que j'ai compris le message, je vais arrêter de démolir, ou en tout cas, sur le papier, je vais mettre dans la balance la destruction et la réhabilitation du projet. Ouais. » Et clairement, même si, je ne sais pas si c'est volontaire de ne pas avoir de vision RE 2020 réhabilitation, clairement c'est un signe, si les gens ne l'ont pas compris, je le redis, c'est... Posez-vous la question, réhabilitation, c'est beaucoup plus facile que construire maintenant.
Alors, est-ce que, selon vous, la maîtrise d'œuvre d'une manière générale ou les maîtrises d'ouvrage sont prêtes pour cette RE 2020, puisqu'elle va être appliquée dans quelques semaines maintenant, est-ce que vous sentez que le monde du bâtiment est prêt?
Bon, c'est inégal, mais on va le dire gentiment, c'est inégal, mais il y a quand même... en masse, je ne saurais pas chiffrer, parce que voilà, mais on rencontre tous les jours des architectes, des constructeurs, notamment chez des gros acteurs du bâtiment et travaux publics, des vrais savoir-faire, ou chez les gros promoteurs, des vrais savoir-faire. Donc, ça fait des années qu'on travaille sur l'empreinte carbone de la construction chez beaucoup d'acteurs majeurs. Vous avez peut-être un avis différent.
Je suis peut-être un peu moins optimiste, pourtant Dieu sait que je sais être optimiste. Non, parce que pour moi, la RE 2020, c'est vraiment un changement majeur et ça devrait être une réglementation pour les architectes. En premier lieu, c'est la matière, c'est ce qu'on voit, on pourrait tout à fait dire, rien qu'en regardant le bâtiment, ce bâtiment respecte ou pas la règle. Contrairement à l'RT 2012, les systèmes, on les voyait pas. J'ai quand même le sentiment que les architectes ne se sont pas vraiment appropriés le sujet. Ça commence tout juste à émerger, mais j'ai fait quelques conférences où les architectes presque découvraient la RE 2020 et surtout découvraient qu'elle impactait vraiment l'architecture et que c'était pas la RT 2012. Beaucoup d'architectes vous diront c'est un sujet d'ingénieur fluide, c'est pas du tout mon sujet. Après, ça, on peut critiquer cette phrase-là, mais la philosophie est pas si fausse que ça.
Là où pas que les architectes découvrent la veille de déposer le permis, on va balancer le calcul RE20.
J'ai peur qu'il y ait encore quand même beaucoup d'architectes qui ne sont pas vraiment appropriés le sujet, sachant qu'après, ça peut être assez technique, mais en réalité, une ACV, c'est simple. C'est des multiplications, des additions. Après, j'ai confiance. Les architectes sont des gens très souples, qui s'adaptent vite et très intelligents, mais il faut prendre le pas, effectivement, dans les jours qui viennent.
Oui. Laurent Morel, dernière réaction avant de passer à l'agenda.
Oui, je pense que je suis tout à fait ravi et moi je suis très heureux aujourd'hui d'évoquer ce sujet avec vous pour inciter les architectes à s'en occuper. Simplement, à l'étape juste après, chez les constructeurs, chez les bureaux d'études, dans beaucoup de domaines de la maîtrise d'œuvre, ces sujets sont bien connus, hein, notamment chez les bureaux. Donc, au fond, il y a un terrain de jeu là pour les architectes. Pour ceux qui veulent bien s'en emparer ici et maintenant, il y a un terrain de jeu parce qu'il y a des savoir-faire en termes d'exécution, notamment sur les gros projets, très clairement. Hein, donc, s'il y a un message à dire, effectivement, je suis de votre avis, les amis, emparez-vous de ce sujet. C'est une opportunité pour vous, les architectes, de remettre en au cœur du jeu votre métier d'architecte et de concepteur.
Hein. Je pense que le message est passé et j'en suis très content. C'est l'heure de l'agenda de Dominique Boret qui va nous parler des grands événements à ne pas rater ce mois-ci.
Une toute petite exposition, mais tout à fait remarquable, nichée au sein de la bibliothèque de l'Arsenal, présente la collection personnelle de Robert Badinter sur l'histoire de la peine de mort et son long cheminement jusqu'à son abolition définitive. Manuscrits, livres, objets, correspondances, estampes rappellent ce qu'était une lettre de cachet dans Bastiment, la torture pratiquée pour obtenir des aveux qui a été supprimée seulement en 1780, le bagne, l'écartèlement et la guillotine, figurez-vous, considérés comme un progrès à l'époque. Une passion pour la justice dans la bibliothèque de Robert Badinter jusqu'au 12 décembre au pavillon, à la bibliothèque de l'Arsenal. La concertation citoyenne pour la fabrique de la ville est devenue l'alpha et l'oméga du maître d'ouvrage. L'écomusée du Grand Orly-Sainte-Bièvre à Fresnes, avec l'accord l'architecture Paris-Lavillette, a décidé de l'analyser et, sans, c'est heureux, tomber dans le préchat utilisé habituellement pour la co-construction et l'inclusion. Donc, l'exposition analyse ses enjeux, ses atouts, ses défauts, ses limites. Le tout est illustré par des maquettes, plans, photos, vidéos et des projets concrets développés sur le territoire du Grand Orly Seine-Bièvre. Elle s'appelle « La ville en partage », c'est jusqu'au 6 mars 2022 à l'écomusée du Grand Orly Seine-Bièvre à Fresnes. Vous vous interrogez sur votre relation à votre maître d'ouvrage, ses réactions, ses exigences, ses raisonnements. Et des fois, vous doutez même des raisonnements. Vous vous perdez dans le labyrinthe de la commande, du contrat global au PPP. Vous trouverez des réponses dans deux ouvrages instructifs et pertinents qui traitent du sujet inépuisable du couple maître d'ouvrage-architecte en retraçant l'évolution depuis ces 50 dernières années. 50 dernières années qui ont vu les promoteurs privés acquérir un rôle prépondérant à mesure que la commande publique est passée de l'État aux collectivités territoriales. Donc, le premier ouvrage aux éditions Anteprima, en collaboration avec Business Immo, il s'appelle « Promoteur architecte, une histoire récente, l'évolution de la maîtrise d'ouvrage en France de 1977 à aujourd'hui ». Le second s'appelle « Les architectes au défi de la ville néolibérale » par Véronique Biot, qu'on ne présente plus, aux éditions Parenthèse, qu'on ne présente plus non plus, qui a obtenu une mention du jury 2021 du prix du livre de l'Académie d'architecture. Toujours dans le cadre des prix de l'édition 2021 de l'Académie d'architecture, mais celui pour la jeunesse, je vous recommande à offrir pour Noël à vos enfants, petits-enfants, cousins, cousines, neveux, nièces à partir de 7 ans, l'ouvrage de Didier Corny aux éditions Helium qui s'appelle « Tous les jardins sont dans la nature ». Par l'écriture et les dessins, il décrit les grandes typologies de jardins et en raconte une dizaine du 18e au 21e. Et personnellement, moi, j'ai tout appris ce jour-là, à sa lecture, pardon, du jardin de... à New York, comment s'appelle-t-il ? J'ai un trou complet. Central Park. Voilà, et c'est absolument passionnant à partir de 7 ans et à offrir à Noël.
Merci, en plus on a les listes de cadeaux. Alors merci à nos invités, Laurent Morel, Guillaume Meunier, merci à Lila Polonia Fournier pour nous avoir éclairé de vos informations. Merci à David Trottin, Dominique Bourré que nous retrouvons le mois prochain. Merci à Jason, à La Technique, à Guillaume Loiseau et Eric France pour cette parole accordée. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous le jeudi 23 décembre pour une nouvelle émission qui sera intitulée « Contestation urbaine, les citoyens en campagne ». On parlera de la capacité des mouvements citoyens à faire plier les grands projets. On parlera entre autres Notre-Dame-des-Landes, Europa City, Brunzo et la Tour Triangle, qui sait.
Et hashtag ça cache Paris.
Ça cache Paris, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup à dire. En tout cas, vous pouvez bien sûr nous retrouver en podcast et écouter cette émission et la partager le plus largement possible et nous écrire à prisme.batiradio@gmail.com. Je vous remercie, à très vite.
Prisme, l'émission d'architecture qui fait société sur Bâti Radio.